RSE Time avec les locataires, une émission environnement sur Radio G.
Salut tout le monde, c'est Marius à l'appareil sur Radio G. Je suis avec toute l'équipe, Marie, Gaspard, Titon et Félicien. Vous allez bien?
Ça va super, et toi?
Bah nickel.
Ouais, ça va.
On est prêts, on va bien.
Ouais, moi aussi, ça va, tranquille.
On est tous élèves en STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, au lycée Angers Lefrène à Saint-Job-sur-Loire dans le 49. Puis aujourd'hui, on va parler du climat. On va faire une discussion et un débat dessus. Titouan, il a fait un micro-trottoir. Il a interrogé M. Blivet, notre prof d'économie au lycée. Puis entre le micro-trottoir et le débat, on va vous présenter une musique.
Donc moi, dans cette chronique, je vais vous présenter les différents modes d'action possibles en faveur du climat. Donc il y a deux types d'actions, les actions individuelles et les actions collectives. On va commencer par les actions individuelles qui sont divisées en différentes parties, comme il y a le transport, la nourriture, l'habitat et la consommation quotidienne, ça c'est les principaux. Donc pour le transport, on peut voir dans la vie de tous les jours, on peut utiliser le bus, le vélo si on habite en ville, et si on habite en campagne, on peut aussi utiliser le train, le covoiturage, le vélo. Et si on habite pas trop loin du lieu de travail, on peut prendre le vélo pour s'y rendre. Dans les transports, il faut aussi penser aux vacances. L'avion, c'est quand même 16% des émissions de CO2 du transport. Donc, il faut essayer de le réduire au maximum pour avoir un impact sur le climat. Pour la nourriture, il y a des actions simples comme commencer par consommer local et bio éventuellement, se rapprocher le plus possible pour discuter avec les paysans et les paysannes qui nous nourrissent, et diminuer la consommation de viande et surtout manger de la bonne viande aussi. Pour l'habitat, il y a l'isolation qui est très importante, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les manières de se chauffer, par exemple passer d'une chaudière au fioul à une chaudière à bois, et accepter des températures plus basses dans les logements. Et pour la consommation des biens au quotidien, ce sont des habitudes de vie qu'il faut vraiment changer. Ne pas céder à des habitudes de surconsommation, ce qui veut dire accepter le fait qu'il faudrait acheter des vêtements que quand on a vraiment besoin, et des vêtements réutilisés d'occasion avec Emmaüs, des friperies, tout ça. Et pour les actions collectives, il y a d'abord des manifestations, ça pèse vraiment un poids dans les revendications, mais aussi ça favorise les échanges avec des personnes, que ce soit des personnes politiques, des syndicats, des étudiants, des ouvriers, etc. Et il y a aussi les grèves, les blocages, les occupations des lieux qui sont aussi très importantes et qu'il faut prendre en importance parce que c'est essentiel dans la vie pour avoir de plus en plus de droits. Et la désobéissance civile peut être un moyen efficace pour se faire entendre aussi. Un engagement dans une association est aussi un moyen d'agir directement et collectivement. S'impliquer dans un syndicat permet d'agir plus professionnellement et aussi politiquement. Les engagements collectifs peuvent inspirer des personnes à développer leurs actions individuelles. Et les débats peuvent créer du lien entre les actions collectives et individuelles. Et il faut savoir que chaque geste n'a pas le même impact sur le changement climatique. Il ne faut pas opposer les actions collectives et les actions individuelles, car elles sont vraiment complémentaires.
Merci déjà Titan pour ta chronique. Puis maintenant, on va vous faire écouter justement l'interview de Dominique Blivet, notre professeur d'économie.
Pouvez-vous nous parler de votre engagement pour la protection du climat en tant que citoyen ?
Ok, alors moi d'abord, je suis plutôt militant syndicaliste, donc je suis militant à Solidaire et donc plus spécifiquement à Sud Rural. Et donc nous, on essaie de prôner un syndicalisme qui à la fois défend les travailleurs et les travailleuses, mais qui aussi a une approche globale sur le monde. Et on pense, nous, que effectivement, les problèmes climatiques sont cruciaux et que bah, y a vraiment un enjeu fort et que donc on doit vraiment protéger l'environnement. Et pour cela, bah, on essaye, nous, au ministère de l'Agriculture, d'avoir une approche critique un peu sur... Bah sur les programmes scolaires des futurs agriculteurs, des futures agricultrices, en essayant d'axer sur la transition agro-environnementale. Donc, on essaie de pousser là-dessus. Et puis aussi, donc, d'avoir des positions donc, au ministère de l'Agriculture donc pour qu'on aille vers bah voilà, réellement un ministère qui s'appelle de la souveraineté alimentaire, mais pour que ça devienne beaucoup plus réel.
Ok. Et pour vous, quels sont les modes d'action qui vous paraissent les plus efficaces en faveur du climat ?
Alors, en faveur du climat, bah, en fait, il s'agit de transformer la société. Donc, il y a différentes luttes. Hein. Il y a des luttes qui vont être sur des aménagements. Donc, on a pu avoir Notre-Dame-des-Landes. On peut avoir aujourd'hui sur la A69. Donc, il y a des mobilisations locales. Nous, au niveau de Sud, on essaie de mettre des passerelles entre les militants jeunes, les salariés, les militants plus âgés, qu'on essaie de trouver des points de convergence. Et on essaie, par exemple, aussi, de manière syndicale, de travailler avec les entreprises qui serait amené à construire les infrastructures. Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, on avait réussi à faire le lien avec les salariés de l'aéroport, avec les salariés de Vinci qui avaient pris position contre la construction de l'aéroport. Donc nous, on essaie d'avoir un regard en tant que travailleurs et travailleuses, pas forcément que citoyens. On essaie vraiment, parce que nous, on est dans une optique de lutte de classe, donc on pense que l'écologie, elle doit être... aussi dans le monde du travail. Donc c'est un peu l'originalité qu'on essaie de faire.
Ok, donc votre combat, vous pensez qu'il est, il est plus pertinent si vous travaillez plutôt dans le collectif que dans l'individuel ?
Ah, complètement. Nous, on est vraiment... moi, je suis vraiment dans l'action collective, donc je pense qu'individuellement, on ne fait pas grand-chose. Même si on peut avoir des bonnes pratiques, hein, il ne s'agit pas de vivre en s'en foutant de notre consommation ou autre, mais... moi, je suis pas du tout dans une optique de colibri, quoi. C'est vraiment, moi, je suis pas du tout comme Pierre Rabhi à penser qu'il faut mettre sa goutte. Je pense que c'est complètement inutile, enfin, fortement inutile. C'est juste éthique, quoi. C'est juste éthique. C'est pour se rassurer. C'est pour avoir une pensée où on se dit, bah, j'ai fait ma part. En fait, je pense que le changement, il sera collectif, ou sinon, il n'aura pas lieu. Il y a des décisions politiques. Il y a des choses qui se font. Donc, je pense qu'effectivement, il s'agit de changer le monde, mais par le collectif. Donc, en essayant d'imposer un autre choix de société en se mobilisant. Et nous, la petite originalité, c'est de le faire depuis le monde du travail. Donc en essayant de mettre l'écologie dans le monde du travail partout et de questionner la contradiction qu'il y a entre la protection de l'environnement et le boulot qu'on fait. Alors quand on est prof, ça se voit un petit peu, mais pas tant que ça. C'est vrai que, par exemple, si on discute avec des salariés de Air France, c'est plus compliqué. Mais voilà, il faut mener le débat avec toutes les contradictions. Et essayer de voir bah, qu'est-ce qui peut être fait en termes de transport, en termes de reconversion des industries, pour réellement avoir un impact écologique fort et pas juste un truc cosmétique. Il s'agit vraiment de repenser les transports, de retransformer les industries, de trouver comme, enfin, par contre que les gens gardent leur boulot quand même, mais de voir en quoi leur boulot pourrait être fait autrement avec eux. Par exemple, là sur, je finirai là-dessus, hein, sur Nantes, les salariés de la centrale de Cordemais, donc au charbon, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Eux, ils ont fait grève, mais pour la reconversion du site. C'est-à-dire qu'ils ont bien vu que le charbon, ça menait nulle part. Et donc là, ils ont écrit un projet qui est en phase de réalisation, qui prévoit de tourner la centrale thermique, toujours, mais qui serait avec des déchets de bois. Donc ce serait une centrale un peu d'appoint, comme est Cordemais aujourd'hui, et qui tournerait plus au charbon, mais qui récupérerait les chutes de bois à grande échelle de l'industrie, et qui serait en soutien à la production en période d'hiver où il y a des surproductions. Donc le projet est pas parfait. Mais en tout cas, partir des salariés, ça nous paraît être une bonne idée. Et pas avoir une écologie qui vient de l'extérieur. Il faut vraiment l'intégrer au monde du travail, sinon on aura du mal à la faire passer. Quoi.
Ok, et j'avais une petite dernière question. Comment vous arrivez à mobiliser les gens, à faire en sorte de les convaincre pour les faire adhérer à un mouvement collectif ? Parce que c'est pas simple de mobiliser les gens.
Effectivement. Donc après, ça dépend des sujets. Hein. Sur, par exemple, les conditions de travail, bon, bah, c'est plus évident parce que, par exemple, si on nous, là, on veut nous faire travailler, enfin nous payer plus, enfin nous payer pareil pour travailler plus. Donc ça, les collègues, ils sont relativement conscients que c'est pas quelque chose de très positif. Donc on se mobilise facilement contre. Après, on essaie de jongler entre un travail de terrain. Vraiment la défense de base des collègues, hein, s'ils ont des problèmes avec leurs supérieurs, s'ils ont des difficultés, essayer de se battre pour des augmentations de salaire. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on essaie de proposer un projet de société un peu plus large. Donc là-dessus, nous, on travaille sur différentes thématiques, donc avec l'ensemble des collègues des autres professions. Et on essaie de trouver ensemble des solutions qui nous paraîtraient plus envisageables. Donc on essaie d'avoir des mobilisations collectives. Par exemple, nous, on essayait de rejoindre les jeunes qui faisaient des grèves pour le climat il y a quelques années. Donc au niveau de Solidaires, on était dans les manifestations. Bon, c'est pas facile à mobiliser et autres, mais on essaie de vraiment d'apporter quelque chose, de dire que voilà, en tant que salarié, le modèle de production nous plaît pas. Et je pense qu'on est les plus à même de savoir les gaspillages qu'il y a, les abus, où va l'argent. Par exemple, je suis persuadé que les salariés de Total, eux, ils n'en voient pas la couleur des 21 milliards de profits. Donc eux, est-ce qu'ils ont intérêt, comme leur patron, à que ça tourne pareil? Pas sûr. Donc vraiment, c'est de questionner l'entreprise, mais dans l'entreprise, c'est-à-dire pas de l'extérieur. Je suis assez méfiant. Je suis assez sceptique sur le fait d'avoir des actions, alors je critique pas, hein, mais qui peuvent être un peu naïves, je trouve, où par exemple on va dire oui, c'est scandaleux et tout, mais c'est un peu désincarné. C'est-à-dire que si on l'incarne de l'entreprise, peut-être qu'on a, j'espère, qu'on a plus de leviers pour modifier en profondeur les choses que d'une approche de l'extérieur, où parfois on sait pas... À part s'indigner, alors c'est bien de s'indigner, c'est mieux de s'indigner que de pas s'indigner. Mais j'ai peur qu'il y ait un peu une syndrome de l'impuissance, parce que bon ben voilà, on peut s'indigner du réchauffement climatique, mais une fois qu'on s'est indigné, c'est pas simple. Alors que si on essaie de collectivement modifier les modes de production, j'espère que ça peut être plus efficace.
D'accord. Bon ben merci pour ces super réponses.
Merci.
Et merci pour cette interview, Gaspard, avec notre prof d'économie. Est-ce que vous voulez rebondir sur certaines choses que Monsieur Blivet a pu dire et répondre à vos questions ?
Oui, j'avais quelques questions. Je ne sais pas si vous avez des réponses, mais vous pensez qu'ils peuvent faire quoi, les syndicats, pour agir concrètement auprès des entreprises ? Vous pensez qu'il y a quoi ? Ils ont quel levier, quel moyen d'action en tant que syndicat?
Je pense qu'ils peuvent peser déjà avec le nombre. Si dans des entreprises, ils sont la plupart à faire grève, à bloquer l'entreprise, ça pèse. Et aussi, il faut proposer aussi des choses concrètes au patron pour qu'il change. Si on bloque l'entreprise sans rien dire après, ça peut pas marcher. Faut que les salariés aident aussi, soient en plein dans le sujet pour aussi faire évoluer l'entreprise.
Ouais, je trouve ça intéressant de dire que les salariés sont acteurs du changement, puisque oui, comme tu disais, Titon, c'est le nombre qui compte, et puis c'est souvent des salariés. Par exemple, Monsieur Blivet prenait l'exemple de l'usine de charbon, et en fait c'est leur nombre et la proposition d'un projet qui a permis peut-être l'aboutissement de leur projet. Donc c'est une manière aussi de véhiculer leurs idées à travers le salariat.
Et faut aussi que les syndicats, même s'ils partagent pas la même profession, qui viennent dans la lutte de l'autre pour aussi faire évoluer, avoir plus d'idées. Que par exemple, les syndicats de l'éducation prennent part avec les syndicats agricoles de ce qui ne va pas dans l'agriculture. Et pareil, l'inverse aussi.
Ah oui, pour avoir un regard un peu extérieur, c'est ce que tu veux dire. Ok.
Moi, je voulais rebondir sur ce que, quand M. Blivet il a parlé des actions individuelles et collectives. Et il disait que les actions individuelles, c'était... Enfin, il disait que les actions collectives, plutôt, c'était important et beaucoup plus expressif pour qu'on se fasse entendre. Mais moi, je trouve que quand même, c'est quand même assez important que tout le monde fasse sa petite partie des choses de son côté. Même si c'est pas suffisant, ce sera toujours ça de pris.
Oui, il faut que les actions individuelles, c'est pas totalement inutile. Mais sauf que tout le monde ne va pas faire d'action. Mais c'est un minima, c'est tout petit, la part d'action faite dans l'individuel, ça pèse moins que le collectif, je pense.
Oui, oui. Mais je pense, on imagine une société où les actions collectives vont porter leurs fruits et puis on fait évoluer les choses. faudra des actions individuelles d'habitude de vie qui fera qu'elles viennent appuyer ces actions collectives pour un peu compléter le changement, la transition.
Et puis, en soi, un ensemble d'actions collectives revient à avoir une action... Enfin, un ensemble d'actions individuelles revient à avoir une action collective, puisque en fait, on agit quand on trie nos déchets, bien sûr, on fait attention, mais on agit avec une pensée collective, on pense aux autres en faisant ça, et surtout qu'on est suffisamment informé pour penser à une sorte de morale, de se dire bah, je trie mes déchets parce que je sais que ces déchets vont se retrouver dans l'océan et que ça va juste amplifier l'action du réchauffement climatique et des pollutions des eaux.
Puis on a pu voir dans le monde que les actions collectives étaient un peu, au départ, beaucoup d'objets d'actions individuelles qui ont pu créer justement celles-ci et justement faire changer les choses au niveau national et même international.
Et M. Blivet, il parlait surtout des actions de syndicats, puis après, il y a les actions... En tant que bénévole dans les assos, ça peut avoir du poids aussi. Par exemple, il y a des assos sur Angers là, qui dénoncent l'artificialisation des terres. Ça peut avoir du poids et c'est pas des professionnels du métier qu'ils font, c'est des gens en tant que bénévole.
Bah, c'est à tout le monde de s'engager. Et du plus petit au plus grand, et tout le monde est touché par le climat. Enfin, en tout cas, tout le monde ne prend pas conscience pareil, mais en tout cas, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, il faut que tout le monde soit pleinement à fond dans la lutte, quoi.
Ok, et je me demandais aussi. Dans une transition où les entreprises polluantes arrêteraient leurs activités polluantes, les salariés qui travaillent dans ces entreprises, comment on gérerait leur reconversion Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer d'autre pour qu'ils aient un emploi qui continue?
Bah, s'ils arrêtent, il y aura forcément une autre chose qui va les remplacer, enfin qui va trouver la transition à cette entreprise. Du coup, je pense qu'il y aura d'autres métiers qui vont se créer. Et aussi, dans le climat, il y a plein d'autres métiers à faire évoluer. Ça existe déjà, mais il faut embaucher plus de postes, comme dans la rénovation thermique des bâtiments, pour consommer moins. Et pareil, dans l'aménagement du territoire, tout ça pour... polluer le moins possible et artificialiser aussi le moins possible. Donc je pense qu'il y a plein de métiers à créer autour du climat.
Ok.
Et justement, il y a un métier qui peut être intéressant de creuser, c'est que du coup, ces terres qui sont artificialisées, si on parle d'artificialisation, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, puisqu'une terre artificialisée, c'est très difficile de la renaturer. Et donc du coup, ça peut, de fait, créer des métiers, et sachant qu'on investit, on pourrait investir, au lieu d'investir par exemple dans Total, on pourrait investir autrement l'argent, par exemple dans la dépollution des océans, qui demanderait un budget astronomique. Donc du coup, demander à des ingénieurs, des chercheurs, de travailler sur cette problématique.
Merci pour vos rebondissements sur cette interview. Puis maintenant, on va pouvoir vous laisser écouter une musique de Bigaranx, La Glace. Bonne écoute.
La glace fond et le plastique reste. Je traverse les saisons avec la même petite veste. On perd le nord dans leur caris ouest. Salut, c'est cool, deviens bonjour, tristesse. Oh, le monde est beau et celui-là, c'est le nôtre. Enlève la pierre que tu caches sous tes côtes. Des fois, je fais de la merde, mais c'est jamais de ma faute. Car le problème sera toujours les autres. J'roule les R comme Jack, décongé. J'connais App, décongé. L'éponge, on abrège tous nos projets. Mais j'ai promis à Magie de la
faire voyager. Alors j'enchaîne scène sur scène et fume l'herbe qu'on m'a coupée sous le pied. La mer commence au Donatello. Je regarde le ciel, je sais même plus s'il fait beau. Pour sauver le monde, moi j'ai qu'un projet de ma oh 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 dame. C'est ni ta faute ni de la mienne. Et quand on vient même c'est la même. Avec du bando on récolte ce que l'on sème. C'était E de C Y Mayman. C'est ni ta faute ni de la mienne. Et quand on vient même c'est la même. On récolte ce que l'on sème, mais du bando. Deli de la mundo coupe le tempo. La glace fond et le plastique reste. Je traverse ces saisons avec la même petite veste. On perd le nord dans leur guerre east-west. Salut c'est cool, deviens bonjour tristesse. Oh le monde est beau et celui-là c'est le nôtre. Enlève la pierre que tu caches sous tes côtes. Des fois je fais de la merde mais c'est jamais de ma faute. Le problème sera toujours les autres. Je roule les R comme Jack. Des congés, je connais App. Des congés, l'éponge. On abrège tous nos projets. Mais j'ai promis à Madjé de la faire voyager. Alors j'enchaîne scène sur scène et fume l'herbe qu'on m'a coupé sous le pied.
J'espère que la musique vous aura plu, c'était La Glace de Bigaranx. Et pour les nouveaux venus, je rappelle qu'on est sur Radio G, on est 6 élèves du... Oui, 5 élèves, pardon, du FREN, en STAV, qui veut dire Sciences, Technologies de l'Agronomie du Vivant. Puis là, pour vous, j'ai préparé un jeu sur le thème de la désobéissance civile. Je vais juste poser une question, il y aura, comme un QCM, trois propositions et vous devrez deviner... la bonne réponse. Vous êtes prêts ?
Ouais.
Oui.
Alors, première question. De quand date la désobéissance civile ?
Bah, moi, je pense que c'est pas si vieux que ça. Ça me tournait pas que ça date...
Là, j'ai oublié trois propositions. Ouais. La proposition A, de la génération climat. Proposition B, de la guerre de mai 1968. Ou des proposition C, des actions de suffragettes en 1903. Félicien ?
Moi, je pense que ça c'est né après-guerre, donc je pense en 1968, où il y a eu une révolution un peu du peuple, comme on a pu voir un peu avec les Gilets jaunes, mais d'une autre manière, envers le gouvernement et ce qui se passait.
Eh bah, ben, ce n'est pas ça.
Ah,
dis-toi.
Je pense que c'est en 1903. Ça a dû arriver très tôt et c'est pas la première fois qu'on entend parler de la désobéissance. Désobéissance civile.
Effectivement, c'est apparu avec les actions des suffragettes en 1903. Bah, je peux vous expliquer si vous voulez. C'est un mouvement qui est né à la fin du 19e siècle en Angleterre. Il est porté par des femmes qui revendiquent leur droit de vote. Et elles avaient mené des actions pacifiques, mais sans aucun résultat. Et du coup, c'est grâce à ces actions-là que la désobéissance civile, elles obtiennent leur droit de vote en 1918.
Et c'est pas le moment où une suffragette se jette sous le cheval royal.
Alors, si, c'est ça.
C'est ça.
C'est passé, oui.
Alors, deuxième question. Quel est l'objectif de la désobéissance civile ? Proposition A, provoquer des changements grâce à la violence. Proposition B, de provoquer des changements en désobéissant à des lois collectivement. Ou proposition C, montrer son désaccord en manifestant contre une loi. Dis-toi.
C'est la réponse B.
Oui. Le but est en effet de désobéir aux lois collectivement et intelligemment pour gagner des victoires politiques, ordre social, d'ordre environnemental, etc. Et la dernière question, quelles peuvent être les sanctions d'une action de désobéissance civile ? Proposition A, juste une remarque par les policiers, mais rien de plus. Proposition B, 2 ans de prison plus 3000 euros d'amende. Ou proposition C, 1 an de prison plus 15 000 euros d'amende. Dis-toi.
Proposition B, 2 ans de prison, 15, je sais plus ce que c'était, l'amende.
3000.
Ouais.
Non.
Et je ne sais pas, mais je pense qu'il y a une autre manière de désobéir. C'est déjà commencer par lire Désobéissance civile de Henri David Thoreau. Après, je ne sais pas du tout les réponses.
Bah, la réponse, c'était 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Mais c'est en général. Puis voilà, c'est fini pour ce jeu-là. On peut passer au débat sur la question « Les actions collectives sont-elles utiles pour engendrer une transition ?»
C'était un peu ce que disait M. Blivet dans son interview. Il disait que, pour lui, en tout cas, les actions collectives, ça avait beaucoup plus de poids que les actions individuelles. Est-ce qu'elles sont utiles ? Je pense que oui, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Les actions individuelles, elles ont leur poids aussi. Faut pas les négliger dans notre société.
Je pense que oui, comme tu dis, Titouan il a dit, les actions collectives et individuelles sont complémentaires. C'est que l'une sans l'autre ne peut pas agir efficacement. Et donc je pense que c'est intéressant d'agir à sa manière, de mettre sa goutte d'eau comme fait la métaphore du colibri de Pierre Rabhi. Mais je pense que aussi c'est important d'avoir des échanges et d'aller en manifestation pour justement revendiquer ces idées qui sont tous les jours appliquées au quotidien.
Et je pense que les actions collectives, elles sont essentielles parce que à plusieurs, on pèse beaucoup plus. Et donc, c'est un moyen vraiment de se faire entendre plus qu'en faisant des actions individuelles où c'est juste pour nous. Enfin, c'est pas pour nous, mais personne nous regarde. Alors qu'en faisant des actions collectives comme en manifestation ou même en désobéissance civile où on est à plusieurs, je pense que ça peut vraiment peser parce qu'il y a un regard médiatique. Et on en parle, on l'a vu, y a, par exemple avec la 69, on en parle souvent aux informations parce que c'est un mouvement qui est ouvert, où il y a du monde sur le lieu, tout ça. Donc c'est une action collective et au final qui marche, voilà.
C'est sûr que les actions collectives elles permettent de se faire écouter à une échelle bien plus grande et de défendre quelque chose, une idée plus fortement à plusieurs parce qu'elle va se diffuser du coup plus facilement et on pourra aussi en parler à nos proches et tout, à notre famille et les gens vont se poser la question justement sur est-ce justement intéressant, comment peut-on agir sur celle-ci et tout.
Et moi je sais pas parce que dans les actions collectives des fois ça marche pas trop, c'était pas en rapport avec le climat mais par exemple pendant la période des manifs contre la réforme des retraites il y a eu beaucoup de manifs et au final ça a pas eu de poids alors que pour le climat des actions individuelles ça a un impact faible, mais il est direct l'impact. Si on réduit notre carbone, il est réduit. Qu'une manif, si on manifeste et qu'il n'y a pas de décision politique derrière, ça va pas servir à grand chose. Oui.
En soi, d'après moi, toutes les manifs servent à quelque chose parce que je pense qu'en fait, d'après moi, l'engagement se passe déjà surtout par la conscience et l'idée qu'on a chacun une responsabilité sur ce qui se passe et qu'on a chacun un impact. Et en soi, même si la manifestation n'aboutit pas à des changements de loi, en tout cas, on revendique, nous, nos propres droits et nos idées. Et c'est déjà une avancée. Et puis même une avancée personnelle dans sa lutte et même dans sa réalisation. Donc chaque manif apporte quelque chose.
Merci à toute l'équipe pour ce débat. Et les auditeurs, n'hésitez pas à continuer le débat chez vous, ça nous ferait extrêmement plaisir. Puis merci à toute l'équipe pour aujourd'hui et pour cette émission. Merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. À la prochaine, puis topette.
Topette.
Ciao.
Salut.
Salut.
RSE Time, avec les locataires, une émission environnement sur Radio G.